bonjour à tous. Le sujet dont on va traiter aujourd'hui, c'est pouvoir citoyen et pouvoir politique, enfin le renouveau. Donc on va le traiter depuis notre angle pour savoir dans quelle mesure est-ce que les formats audio et vidéo peuvent avoir une influence dans les mouvements militants. Avant de commencer, on va se présenter et se situer par là même parce que ce sera important pour la suite et vous verrez pourquoi. Donc moi je m'appelle Canel. Je suis perçue comme une femme noire, je suis militante afro-femme, queer et anticolonialiste. Je suis issue d'une catégorie socio-professionnelle plutôt élevée, enfin, genre catégorie moyenne sup. Et toi, je te laisse te présenter.
Alors déjà, bonjour. Alors, si je vous regarde pas très bien, c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Donc ne vous sentez pas épiée, c'est juste que je suis astigmate, c'est compliqué. Donc du coup, moi, c'est Annabelle, j'ai 24 ans et pareil, je suis queer, perçue comme racisée, femme, cis. Et je suis plutôt issue d'un milieu social plutôt bas. Donc moi, j'ai grandi en banlieue, je suis née en banlieue, j'ai grandi en cité. On m'entend bien, ouais. Et du coup, j'ai un passif familial qui fait que en gros, personne n'est diplômé et je dois être celle avec le bac qui a le plus de diplômes, en fait, c'est-à-dire le bac, en fait, pas plus, pas moins. Et j'ai arrêté les études assez tôt, donc après le bac. Je sais pas si j'ai d'autres précisions, mais je pense que c'est assez...
Ouais, bah du coup, pour mettre ça en parallèle avec l'expérience d'Annabelle, moi, j'ai un bac plus 4 en droit. Donc, on n'est pas du tout au même plan social et on ne dispose pas des mêmes capitaux culturels, en fait. Et du coup, pour entrer dans le vif du sujet, déjà, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on doit opposer pouvoir citoyen et pouvoir politique. Moi, je sais que c'est une question qui m'a littéralement fait chauffer l'esprit quand j'ai reçu le sujet. Et ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, il fallait faire les choses de manière très scolaire. Donc on va définir les termes du sujet. Qu'est-ce que c'est un citoyen? Qu'est-ce que c'est une citoyenne? Au sens romain du terme, un citoyen, en fait, c'est quelqu'un qui a droit de cité. C'est une composante de la cité. Et dans notre État-nation moderne, en fait, c'est typiquement une composante de l'État-nation moderne. En droit international, on nous explique qu'il n'y a pas d'État sans population, et donc sans citoyen et sans citoyenne. Les citoyens et les citoyennes disposent de droits civils et politiques, et donc, en fait, c'est pour qu'ils puissent influer sur la vie publique, collective, et donc avoir un certain pouvoir politique. Maintenant, là où c'était important de nous situer, en fait, c'est que même si on est réputé être égaux en droit et en liberté, en fait, dans la réalité, c'est pas du tout ça. Et je pense que je l'apprends à personne ici. Mais quand on est une femme noire issue des banlieues comme Annabelle et qu'on est queer, en fait, on ne dispose clairement pas du même pouvoir politique qu'un mec cis, blanc, hétéro, ou qu'une femme blanche, a fortiori, ou Annabelle ne dispose pas du même pouvoir que moi, par exemple, dans la sphère estudiantine ou professionnelle. Et du coup... Depuis les mouvements sociaux, notamment depuis la loi travail, ce qu'on observe, c'est une militarisation du maintien de l'ordre et une violence exacerbée à l'endroit des citoyens pratiquée par le politique, mais aussi un discrédit qui est jeté aussi bien par les milieux universitaires, enfin en tout cas une certaine frange des milieux universitaires et le politique sur les mouvements décoloniaux, féministes, les études de genre. Et du coup, ça, c'est une façon pour le politique de discréditer les personnes qui peuvent faire vaciller l'ordre dominant, et même jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisqu'on a Emmanuel Macron qui a qualifié de séparatistes, en fait, les décoloniaux, les féministes et compagnie. Et en fait, ça, c'est une façon pour le politique de d'évincer les citoyens de l'État-nation. C'est-à-dire qu'on se sépare de l'État-nation, on n'en fait pas partie. Et du coup, c'est une façon de nous retirer notre pouvoir politique parce que finalement, on fait peur aux politiques. Et c'est là que pour moi, pouvoir citoyen et pouvoir politique s'opposent. C'est-à-dire que le citoyen dispose d'un pouvoir politique dans la limite des attributions qui lui sont données par l'État, par le politique. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ok. Et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, marrant, c'est pas...
Ironique.
C'est pas drôle en vrai. Mais du coup, certaines voix sont plus audibles que d'autres et certaines sont condamnées au silence par le politique. Et ce qui est quand même rassurant, c'est de voir qu'on menace l'ordre dominant et qu'on fait peur aux politiques. Et pour nous, l'accès à l'éducation, c'est l'un des piliers, l'un des pivots de ce renversement de l'ordre dominant. Et l'éducation, ça passe par plein de choses, en fait. Et ce qu'on peut trouver hyper cool avec la modernité, qui est quand même sacrément pourrie à plein d'endroits, c'est qu'on a une multiplication des médiums d'éducation. Aujourd'hui, on n'a plus juste la littérature qui, en fait, est hyper excluante parce qu'il faut bénéficier de certains capitaux économiques, culturels et sociaux pour avoir accès aux savoirs qui sont contenus dans les livres. Il faut disposer de temps aussi. Et du coup, aujourd'hui, on a les documentaires, on a les podcasts, et notamment avec la politisation des réseaux sociaux. Et je te laisse poursuivre.
Non, je viens de réaliser qu'on n'a pas précisé qu'on était co-réalisatrice du documentaire Décolonisons l'écologie qui va sortir mi-septembre. Ça a du sens parce que donc, nous, on vient parler de podcasts et de contenu audiovisuel. Donc, moi, je suis youtubeuse aussi à côté. Et le lien avec le documentaire qu'on va faire, on va le faire tout au long de la masterclass. Mais on a oublié de le préciser. Je pense que c'est super important parce que pour comprendre le contexte, ça sera plus simple. Et donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, en gros, on a co-réalisé un documentaire sur le chlordécone et plus particulièrement sur la Martinique et la colonisation et l'écologie, en fait un lien entre tout ça, de notre initiative. Quoi. On s'est levé un matin, on s'est dit « Ok, on est super frustrés que ça n'existe pas, il manque ce contenu dont on a besoin, donc on va le créer nous-mêmes ». Et du coup, je pense que c'est important pour rebondir sur ce qu'on va dire ensuite. Je ne sais plus ce que tu disais.
Mais ouais, en fait, c'est hyper important parce que moi, de base, j'écrivais un essai sur la colonialité du pouvoir et du coup, sur le chlordécone et les résurgences du droit colonial au travers de ce scandale. Et sauf qu'en fait, c'est pas accessible à tous. Enfin, je veux dire, c'est pas tout le monde qui se lève un bon matin et qui va aller lire un essai sur la colonialité du pouvoir. Alors qu'en fait, un documentaire au sein duquel on vulgarise, on rend des informations rendues compliquées par la sphère scientifique et politique accessible à tous et à toutes, ça révolutionne les consciences. On ne fait pas la révolution avec des podcasts et des documentaires, ça c'est clair. Par contre, on peut influer sur les consciences individuelles, faire germer des engagements militants et du coup espérer que le monde change petit à petit, quoi. Et du coup, ouais, enfin, comme tu disais, nous, le documentaire, ce qu'on voulait, c'est qu'il soit vraiment accessible. Et de base, on n'est pas documentariste. Enfin, je veux dire...
Pas du tout.
Annabelle est youtubeuse. De base, moi, je suis juste juriste. Jérémy était conseiller politique. Enfin, je veux dire, absolument rien à voir. On l'a réalisé en 2 semaines en financement participatif avec 13 000 euros. Et ce qui est cool avec ce genre de format, les formats audiovisuels, c'est qu'en fait... Tout le monde peut le faire, techniquement. Et on y reviendra après en parlant d'accessibilité. Je te laisse poursuivre.
Ouais, carrément. Tu veux qu'on passe aux grandes parties ou tu veux d'abord
Oui,
ouais, c'est ça. Donc, en fait, on a classé l'accessibilité des contenus audiovisuels un peu démontrer que c'est, on va dire, plus efficace... que les livres. Alors attention, c'est pas vraiment l'angle. Et moi, je ne lis pas. Voilà, je ne lis pas. Je lis très peu. J'ai un gros problème de concentration. Alors, je sais lire. Hein. Je rassure tout le monde. Je sais lire. C'est déjà pas mal. Mais j'ai beaucoup de problèmes avec la lecture parce que, justement, typiquement, Canel qui vient et qui me dit « Ah, ce livre, il est génial. Tu vas voir, lis-le. Super et tout. Ça parle grave de ci, ça parle grave de ça. » Elle me file le livre. J'ouvre le livre. Page 1, mot numéro 1, je ne comprends pas ce mot. Et donc je suis comme ça devant le livre et je me fais, ça va être très très long, ça va être très 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 long. Et donc moi ce que j'aime avec internet, les podcasts, l'audiovisuel, les documentaires, les trucs accessibles comme ça qu'on peut trouver sur internet, c'est vraiment le côté tout le monde peut le faire et tout le monde peut le regarder. Alors qu'il y a beaucoup de livres qui sont genre super... Faut avoir fait, je sais pas, un bac plus 5 pour être là et tout comprendre. Même ceux qui ont fait un bac plus 5, ils sont comme ça devant le livre, ils font « je comprends pas » et tout. Et moi, je sais qu'il y a plein de gens comme ça qui ont un gros problème de concentration vis-à-vis de la lecture, qui est une habitude à prendre, et que si on n'a pas baigné dedans, on va finir un livre de 500 pages, quoi. Et donc je m'éparpille, évidemment, je m'éparpille parce que je voulais passer donc aux grandes parties. Donc, du coup, on a classé l'accessibilité un peu des contenus audiovisuels. Et le premier point qu'on a retenu, qui était vraiment un avantage comparé à d'autres formes de médias, c'est que c'est super accessible en temps Donc quand on a peu de temps, typiquement les personnes qui travaillent toute la journée, qui font des études, qui n'ont littéralement pas le temps de se poser le soir à 21h devant un livre, MDR, je dois encore faire à manger, je dois encore manger, je dois encore finir mes trucs et tout. Et ce que j'aime bien avec les podcasts, c'est le côté où les films, enfin les documentaires, c'est que tu peux le mettre et puis faire ta vie en fait. Genre tu peux te poser dans les transports, faire ta vie, t'es là genre... Tu repars avec des informations de ouf alors qu'à la base c'était juste dans le métro. T'es bien et tout, tu reviens, tu fais « Ah super, je repars plus intelligente aujourd'hui et ça s'écoute dans la voiture, et ça s'écoute dans les transports, et ça s'écoute en faisant le ménage, et ça s'écoute chez soi, et ça s'écoute au taf, et ça s'écoute partout. » Et je trouve que ça, c'est vraiment un point indéniable.
Ouais, je suis grave d'accord. Moi, pour faire part de mon expérience personnelle, petite anecdote, je travaille en parallèle de mes études de droit, qui en fait rime juste avec... la mort de son temps personnel, de sa vie sociale. Et en fait, quand je suis chez moi et que je fais à manger ou que je fais le ménage, j'écoute des podcasts parce que quand je me pose dans mon lit à 22h après avoir bouffé 4h de droit privé, en fait, je suis juste en train de m'endormir sur mon bouquin et je peux pas lire. Donc les podcasts, pour moi, c'est un vrai moyen de continuer à me politiser sans lésiner sur le peu d'heures de sommeil que j'ai et la vie sociale que j'ai, quoi. Le second point... la deuxième façon dont on a scindé l'accessibilité, c'est que en fait, les podcasts qui sont accessibles en termes de compréhension. Et je vais prendre un exemple. Je sais pas si vous connaissez Lévinas. C'est un philosophe blanc qui parle de façon très très compliquée, quoi. Enfin, moi, avec mon bac plus 4, Lévinas, je suis désolée, je ne le comprends pas. Et il y a 3 ans, j'écoutais Les Chemins de la philosophie, qui est un podcast que j'aime trop, parce que la philosophie, c'est un truc que je ne comprends pas. Ça m'est pas du tout accessible. J'ai pas du tout le vocable de ce champ pour comprendre. Et c'était hyper compréhensible. Je veux dire, les concepts étaient hyper compréhensibles et tout. Et pour mon essai, dernièrement, je me suis dit, mais c'est super, je vais me servir de son concept d'altérité pour développer mes propres concepts. Et du coup, j'ai voulu lire Totalité et Infini de Lévinas, donc après avoir écouté quand même 4 heures de podcast à ce propos. Et page 1, j'ai pas compris. Page 2, j'ai pas compris. Et j'ai lu sans comprendre jusqu'à la page 70. Du coup, j'ai juste refermé le bouquin. Et je me suis dit qu'en fait, c'est fou, parce que même en ayant un bac plus 4, je suis pas foutue de comprendre un seul mot de ce monsieur. Et ce podcast les a rendus hyper accessibles. Et du coup, ouais, je trouve que c'est cool pour ce qui est de la compréhension. Et toi, tu disais que tu as fait ta politisation sans lire.
Sans lire. Alors, sans lire. Sans livre. Moi, en fait, le parallèle va peut-être paraître bizarre parce que pour beaucoup de gens, Twitter, c'est le mal. Genre, vraiment, c'est... On mettait pas les pieds sur Twitter et tout. Mais moi, genre, mon éducation politique, je l'ai vraiment faite sur Twitter, en fait, parce que ce que j'aime sur Twitter, contrairement aux livres, c'est que souvent, les personnes qui écrivent des livres, c'est des mecs cis blancs qui viennent te parler d'un concept sociologique qui est en fait la réalité d'une personne. Et moi, j'aime bien écouter les gens qui racontent ce qu'ils font, ce qu'ils vivent. Pas genre Gérard, 77 ans, je sais pas combien d'années d'études, qui va te dire « Alors en fait, vous savez, les femmes, ça fonctionne comme ça parce que je les ai étudiées. » Super.
Genre Pierre Bourdieu.
Par exemple. Et donc, moi, mon éducation politique, je l'ai faite sur Twitter. C'est-à-dire, tout ce que j'ai appris, genre en mode toute ma déconstruction de la société et tout, c'est Twitter, parce que c'était des gens, souvent parfois anonymes ou qui ont juste une photo de profil, donc on peut pas vraiment les identifier. Genre, on leur demande pas un CV, quoi. C'est juste des personnes qui viennent expliquer comment ils vivent les choses, qui viennent témoigner de trucs, etc. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec Twitter, et c'est ça qui fait le lien entre l'audiovisuel, mais en tout cas, l'audiovisuel d'Internet. Et les podcasts, c'est que moi, j'ai besoin, personnellement, quand j'apprends quelque chose, que ce soit une personne en première ligne qui m'explique, genre qui me partage son ressenti, etc. Et donc, on était sur la compréhension, c'est ça ?
Ouais.
Et donc, pour parler de la compréhension, je trouve que justement, ça joue beaucoup, en fait, parce que souvent, les personnes, mais ça, on en reparlera après, je crois, mais souvent, les personnes qui créent sur Internet sont aussi ceux qui en parlent, c'est aussi ceux qui vivent les choses. Et moi, c'est super important pour moi et je trouve que c'est vraiment genre le point genre hyper important sur Internet de manière générale, tu vois.
Ouais, et je trouve qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de faire germer des vocations militantes via l'empathie, en fait, qui est suscitée par la voix ou juste par le visuel, en fait. Je veux dire, t'as une personne, une vraie personne qui te parle, que tu vois à l'écran. Alors que je trouve que dans les livres, en fait, ça crée une certaine distance. Je trouve que c'est des discours hyper désincarnés. C'est très théorique, hein. C'est très bien pour mais pour son savoir, quoi. Mais au-delà de ça, je trouve que ça génère pas d'empathie. Et en fait, dans les livres, on a tendance à parler de systèmes de domination. Donc le capitalisme, le colonialisme, etc. Et en fait, c'est des choses qui sont des entités qui sont tellement grandes, c'est des mastodontes, que je trouve que ça génère un peu un sentiment d'immobilisme. Et ce que je trouve super cool avec les podcasts et les documentaires, c'est qu'en fait, on entend parler des vraies personnes depuis leur point de vue. Et en fait, tu dis, bah, comment est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire pour influer sur la vie de cette personne? Et c'est ce qu'on a voulu aussi faire avec le documentaire, en fait. Nous, on a voulu s'extirper de la froideur scientifique, parce que bah, le chlordécone, en fait, il n'y a que les scientifiques qui en traitent. Et on n'entend jamais les premières victimes du scandale sanitaire, du chlordécone et des autres produits phytosanitaires, évidemment. Et du coup, en fait, bah, on a juste interviewé des gens lambda, quoi, des ouvriers, des ouvrières agricoles, une médecin épidémiologiste qui est décédée d'un cancer des poumons l'année dernière et qui vivait au beau milieu d'une bananerie, des enfants d'ouvriers, d'ouvrières agricoles, des gens lambda, en fait, à qui on peut s'identifier et qui génèrent une vraie empathie, quoi. Enfin, je sais qu'aux projections du documentaire, on a souvent des gens qui repartent en pleurant, et je suis pas certaine qu'un livre, à moins d'être écrit de façon plus personnelle et moins théorique, puisse générer ce genre d'effet, quoi.
Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ouais, moi, je suis vraiment, comme je disais, je suis très fait par une personne pour les gens comme elle, genre, ou pour les autres personnes qui veulent les comprendre. Et genre, c'est vraiment un truc qui m'irrite un peu, le côté je suis un sociologue qui vient expliquer la vie des autres. Je répète. Je suis très irritable, donc ouais, voilà, pour continuer. Est-ce que tu veux que je continue pour...
Je vais juste ajouter un truc.
Oui, vas-y, je t'en prie.
Ouais, pour illustrer très concrètement ce qu'on vient de dire à l'instant, en fait, le truc, c'est que quand on parle à des Occidentaux des répercussions de leur consommation sur la vie d'autres personnes, et en l'occurrence de personnes racisées qui, en général, vivent à des kilomètres, en fait, ça a pas d'incidence. Mais quand on voit des gens à l'écran te dire clairement, en fait, la banane que t'es en train de bouffer en Occident, moi, elle est juste en train de me faire décéder à petit feu de deux cancers. La banane que tu manges, en fait, elle est en train de me priver de mon désir de procréation parce que j'ai une endométriose extrêmement sévère. J'en suis à ma 6e FIV et en fait, ça marche pas. Et voilà, en fait. Et du coup, je trouve que ces médiums-là, les podcasts et les documentaires, en fait, ça peut vraiment amener non pas juste à une réforme des consciences individuelles, mais aussi une réforme des comportements. Et du coup, ça a un impact vraiment plus concret que les bouquins, je trouve.
Mais c'est pas une masterclass pro anti-livre. Hein. Lisez, c'est bien de lire.
J'adore lire. Hein.
Je n'aime pas lire, mais c'est bien de lire. Il y a plein de livres bien que je collectionne et que je lis pas. On peut enchaîner sur le côté matériel aussi de l'accessibilité. Donc, ce qui est super bien aussi, c'est le côté tout le monde peut y avoir accès dans la mesure où t'ouvres Spotify, t'ouvres SoundCloud, t'ouvres YouTube, et notamment nous, par exemple, le documentaire, on va le mettre sur YouTube en accès libre. Toutes les projections qu'on a faites, elles ont été soit gratuites, soit à prix libre aussi. Et donc, le but étant que, genre, vraiment n'importe qui, que tu sois riche ou en galère, que tu aies le temps ou que tu aies peu de temps, tu peux l'obtenir. Et je pense que c'est essentiel de créer des contenus qui sont accessibles à tous, parce que autant les personnes qui peuvent se payer des choses y ont accès, et puis les personnes qui ne peuvent pas, bah, y ont accès aussi. Et du coup, ça ne fait pas de clivage et de manque d'un côté ou d'un autre. Tout le monde peut y avoir accès, quoi.
Et du coup, on se retrouve pas avec des milieux écolos majoritairement investis par des bourges. C'est ça. Grosso modo.
Voilà.
Nous, on a beaucoup crié sur Instagram à ce sujet. C'est une petite digression, mais qui permet de revenir au sujet. On entend souvent les blancs nous dire dans les milieux écolos, ouais, mais les personnes racisées, les personnes de banlieue, elles s'intéressent pas à l'écologie, alors qu'en fait, globalement, ce sont les premières personnes à être impactées par la crise capitaliste aux impacts environnementaux. Moi, je préfère plutôt dire ça que crise écologique. Et en fait, c'est juste des gens qui n'ont pas le temps de lire au sujet de l'écologie, par exemple, parce qu'en fait, font partie des petits gens qui vont nettoyer les bureaux des richoux ou travailler à la caisse et font des horaires juste éreintants. Et du coup, je sais plus pourquoi je disais ça.
Ou qu'on n'a pas besoin de lire des essais, oui, voilà. ou des livres de gens qui leur expliquent comment eux-mêmes vivent, alors que Bitch, I'm here. J'ai pas besoin d'un livre pour m'expliquer comment je vis. Pour rebondir... Attends, mais du coup, c'est moi qui me suis perdue dans le rebondissement. Oui, et je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant du fait qu'en gros, pendant le confinement, ce sera après, je crois,
On peut y passer maintenant. En fait, le truc, c'est qu'au-delà du fait que ce soit accessible pour les écouter, pour les regarder, les documentaires et les podcasts, en fait, un podcast, techniquement, tout le monde peut le faire. Quand tu as besoin d'un téléphone avec une fonction dictaphone. Et en fait, ça nous amène à vous raconter une anecdote. Pendant le premier confinement, j'ai des amis, dont Nathalie, qui anime une masterclass juste à côté, qui est venue me chercher avec Camille, Romane et Anna pour les citer en me disant on est en train de créer une radio pirate et éphémère qui s'appelle Permis de sortir. Et du coup, on vous donne carte blanche pour deux émissions. Et on a décidé d'en réaliser une sur la place des femmes noires dans le rap. Et je te laisse poursuivre.
Avec plaisir. Donc en gros, moi ça faisait un moment que je... Alors moi, il faut savoir que je fais une grosse fixette sur le rap. J'écoute principalement... Je n'écoute que du rap. Et du coup, alors je suis un cliché sur pattes, hein. J'écoute que du rap et je suis super frustrée. Mais quand je suis super frustrée, c'est genre au plus haut point de l'absence des femmes dans le rap, mais surtout des femmes racisées, des femmes noires, pour être encore plus précise, dans le rap.
Qui sont à l'origine du rap.
Qui sont à l'origine du rap complètement. Et en fait, comme d'habitude, moi, je me plains. Et un bon matin, elle me dit, vas-y, bien, on en fait un truc concret avec des informations où c'est synthétisé, où on explique. Comme ça, on a un support et la prochaine fois que ça te prend la tête, que quelqu'un te dise « Mais pourquoi les femmes dans le rap ?» Et alors, non, je dis « Attends, bouge pas, j'ai enregistré un truc, tu t'assois, tu écoutes et après tu me parles pas parce que tu auras toutes les informations de toute façon dans le podcast. » Et donc on l'a fait pendant le confinement. Donc faut savoir qu'on était à distance. Elle était en Martinique, j'étais en France, quoi. Elle me dit vas-y, viens, on contacte Assa Traoré, hein. The Assa. Et je dis mais MDR, est-ce qu'elle s'en fout de nous, tu vois? Elle répond et on se retrouve donc du coup à la fin à interviewer Lisa Monet. Je sais pas si pour qui ça parle, Lisa Monet, moi genre, vraiment je la kiffe.
Pareil.
Et Assa Traoré dans un même podcast sur un coup de tête avec littéralement moi un ordi qui est complètement cassé, genre mon ordi il est genre la semaine d'après je crois il était mort, genre vraiment il était en train de mourir. Ton ordi je t'en parle même pas. Et avec donc à distance tout ça et à créer en fait un contenu, un support qu'on n'aurait jamais pu créer dans d'autres circonstances parce que dans le monde de l'audiovisuel par exemple genre la télévision, il aurait fallu trouver une boîte de production, trouver du matériel, un producteur, quelqu'un qui valide notre projet, quelqu'un qui vient mettre son nez dans le projet et qui dit non mais ça c'est trop engagé, non mais ça c'est trop comme si, non mais on peut pas passer ça à la télé, ça intéresse pas les gens. Et là c'est juste toi et toi-même qui dis en fait moi là j'ai besoin de ce contenu. J'ai besoin là tout de suite que ce contenu existe parce que j'en ai marre de me répéter, parce que je suis fatiguée, parce qu'il y a des trucs qui m'énervent, parce qu'il y a des trucs qui me frustrent. Donc je m'en fous, viens Canel, tac tac, elle m'appelle, elle me dit vas-y, on le fait. Et un matin on se réveille, en 4 jours, c'était même pas en 3-4 jours, c'était bouclé, fini, on avait toutes nos interviews, on avait tout notre résumé, on avait tout fait, on avait déjà le savoir, on n'avait plus qu'à le mettre sur, à le rendre réel quoi. Et genre ça c'était trop, enfin... Comme on dit, ça change pas le monde. Vraiment, ça ne vaudra jamais mieux qu'une émeute, une bonne grosse émeute. Mais, ça fait du bien de pouvoir créer des choses dont on a réellement besoin. Genre, sur le moment, c'est nécessaire. Et ça fait du bien de se dire, ok, je peux le faire, je le fais, je le réalise. Et maintenant, il existe parce que nous, on en avait besoin. Et nous, on l'a créé pour d'autres personnes qui attendaient que ça comme contenu, en fait. Et tu veux rebondir, peut-être.
Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, tout le monde peut le faire, avec des ordis éclatés au sol, juste avec un microphone et du culot, en fait.
Beaucoup, et du coup, c'est beaucoup, trop. Beaucoup de culot.
Ouais, beaucoup de kilos. De kilos.
C'est les burgers de Marseille.
C'est les burgers de Marseille, ouais. Et en fait, c'est trop cool. Et finalement, ça peut nous amener une espèce de conclusion où finalement, on peut. Estimer que les podcasts et les documentaires, ça donne plus de voix et plus de souffle et plus de visibilité à des gens qui sont silenciés et qui sont invisibilisés, enfin globalement les autres en fait, toutes les personnes qui s'extirpent de la norme et qui ne sont pas des hommes ou des femmes blancs cis-hêtes. Et ce qui est super cool, c'est que depuis un an maintenant, on a une espèce de, je dirais pas, de montée en puissance des mouvements antiracistes et décoloniaux, parce qu'en fait, c'est des mouvements qui ont toujours existé. C'est juste que c'est des voix qui sont rendues plus audibles de par un événement absolument abject et hardcore, enfin, qui a été horrible à vivre pour toutes les personnes racisées, qui a été l'assassinat de George Floyd. Mais en fait, on a toujours existé. C'est juste que bah, les Blancs se sont réveillés un matin en se disant « Bah ouais, bah, le racisme, ça existe. » Et du coup, bah, c'est le moment de prendre la place. Et c'est trop bien parce qu'il y a plein de podcasts qui émergent. Moi, je pense au podcast « À l'intersection », produit par Jnounalist, qui traite par exemple des cyber, tu ouais. vois.
Je ne sais pas si vous avez la référence, mais il y avait un mouvement qui était issu des banlieues de l'Île-de-France, qui était les cyber, et qui c'était souvent des groupes de personnes racisées, surtout des femmes et des hommes racisés, qui se réunissaient à Châtelet et qui avaient tout un mouvement stylistique très spécifique. Et c'est tombé dans l'oubli, alors que, enfin, moi, ça a marqué ma vie. Enfin, littéralement, genre à l'époque, je posais comme les cyber sur Facebook, je faisais les mêmes posts, je voulais les mêmes saps, je faisais les mêmes trucs et tout. Et quand j'ai vu ce podcast, j'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est d'une précision au point que quelqu'un s'est dit un matin, je vais faire un podcast sur les cyber. Un mouvement qui a duré un an, qui a existé qu'en Île-de-France, qu'en banlieue d'Île-de-France. Et moi, ça m'avait grave choqué. C'est un truc de ouf, comment vraiment une personne, genre chacune des personnes d'entre vous, si vous créez un podcast, il sera unique en fait. Parce qu'à partir du moment où ça part de vous, de vos intentions, de vos rêves, de vos besoins, ça crée tout un univers, tout un mouvement de trucs qu'on se dit. Enfin, quelqu'un qui parle ce que j'avais envie d'entendre. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est fort, genre. Voilà.
Ouais, de ouf. Et du coup, moi, ça m'amène à m'interroger sur les podcasts qui m'ont rendu militante, en fait. Et je pense au podcast Piment, qui est produit par des personnes racisées, notamment originaires des Antilles et du continent africain. Et je sais que c'est ce qui a fondé en fait mon engagement militant décolonial, de même que Kif Taras il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus forcément ce que j'écoute. Mais du coup, je sais pas toi, quel podcast a pu t'amener à militer dans une certaine mesure.
Bah, moi, il y en a beaucoup, mais en fait, j'ai un problème, c'est que je ne retiens pas les noms, je retiens les titres. Mais surtout, comme je le disais, je suis surtout passée par Twitter. Et donc, en réalité, les podcasts, ça a été un accompagnement de ma compréhension sur les choses, mais c'est vrai que par exemple le podcast à l'intersection il m'a grave marqué, vraiment il m'a vraiment marqué, genre je sais que c'est un truc très spécifique où je me dis ok celui-là faut absolument que je loupe rien de tout ce qui va sortir là-dessus parce que ça m'intéresse trop, donc je pense que je parlerai que de celui-ci et ouais voilà c'est tout en vrai parce que sinon c'est beaucoup aussi YouTube, beaucoup Instagram, en fait tous les contenus gratuits sur internet de manière générale je suis une grosse consommatrice de ça. Donc ça s'étend et genre j'ai vraiment des espèces de cycles où un coup je suis à fond dans les podcasts, je vais en écouter 10 d'un coup, genre j'ai ma tête qui va exploser, genre en mode ah il y a notamment un podcast, j'ai plus le truc, c'était sur les, ça s'appelait Nos petites mamans ou un truc comme ça, et ça parlait des grandes sœurs qui ont dû s'occuper de leurs petits frères et de leurs petites sœurs dans leur enfance, donc c'était vraiment juste des témoignages de femmes qui expliquent comment en fait on leur a imposé une maternité alors qu'elles n'étaient pas mères, elles étaient juste des sœurs, et ça, moi ça m'a grave parlé par exemple. Et j'ai même plus le nom exact du, tu vois, c'est horrible. J'ai même plus le nom exact du podcast, mais si on le retrouve, il y aura peut-être une précision dans les informations. Et je me perds de nouveau, mais tout ça pour dire que c'est tout. Tout ça pour dire que c'est tout.
Et pour du coup en revenir à notre documentaire et peut-être après procéder à des questions-réponses. Moi, ce que je trouve super puissant, c'est qu'en fait, à chaque projection, on a des dizaines de personnes qui viennent nous solliciter pour nous dire « Mais comment je peux agir, du coup? Qu'est-ce que je peux faire ?»« Bah, donne ton argent, relaie l'information. » Et c'est trop bien, en fait, parce que ça rend palpable, en fait, le changement. Comment est-ce que je peux apporter mes capitaux économiques pour, justement, faire évoluer cette lutte, justement, décoloniale et écologiste. Et bah, si vous avez des questions, je pense qu'on peut passer aux questions.
Soyez pas timides, ça va aller.
Ça va bien se passer.
Pas de questions ? Ok. Bah, sinon, tu veux qu'on fasse un genre de conclusion ou pas ? Bah, avec quoi on peut conclure ? Parce qu'on a un peu tout dit. Mais je pense que je vais me répéter en concluant. Et je pense que, enfin, je sais pas, les personnes qui sont là, si vous êtes là plus pour... peut-être parce que vous avez envie de créer des podcasts, peut-être parce que vous avez envie de créer du contenu audiovisuel, peut-être parce que vous vous posez des questions sur plein de choses, est-ce que vous pouvez faire, est-ce que vous avez envie de faire. Et je pense que la première chose à se demander, c'est de quoi moi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre, qu'est-ce que j'ai besoin de voir, de quoi j'ai besoin comme impulsion, et de le réaliser en fait, et d'avoir le culot, vraiment le culot. On l'avait dit d'ailleurs dans notre podcast avec Josh Shani, qui est une rappeuse. On lui a demandé qu'est-ce que c'est, si tu devais donner un conseil à une femme noire qui t'écoute et qui voudrait se lancer dans le rap ou dans quelque chose, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Et elle avait dit, si le seul conseil que je donnerais, c'est comporte-toi comme un cis mec blanc et fais les trucs. Arrête de te poser des questions, fais ce que tu as envie de voir, crée ce que tu as envie de voir se réaliser et that's it.
Ouais, juste diffuser ce que vous avez envie de diffuser. Enfin, je veux dire, tous les projets qu'on a lancés, c'est qu'on s'est réveillé un matin et on s'est dit, vas-y, viens, on réalise un documentaire, viens, on réalise un podcast. Et en fait, juste, on l'a fait au culot.
Au culot.
Et ça s'est bien passé. Donc, ayez du culot dans la vie.
Je pense que c'est une bonne conclusion. Ayez du culot.